Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Liberté et droits de l'homme sont-ils condamnés dans nos démocraties? Dans une assez large indifférence, le Parlement français votait récemment un projet de loi étendant considérablement les pouvoirs de surveillance du gouvernement. La France n'est pas la seule, mais alors que certains pays, comme les États-Unis, ont plutôt tendance à alléger le cadre sécurisé contre le terrorisme, voilà que nous faisons le choix de la surveillance en l'absence quasi totale d'émotion ou de réaction de la part de nos opinions publiques face aux conséquences de ces décisions pour la vie privée, qui est, doit-on le rappeler, un fondement de la démocratie et de nos relations sociales. L'Occident est-il en train de se renier, de compromettre les valeurs qu'il porte en étendard dans le monde? Se trompe-t-il de stratégie? C'est ce que nous allons voir avec nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France à Aix-en-Provence. Michel Terechenko, universitaire et philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'ère des ténèbres, paru aux éditions du Bord de l'eau. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Ayer, cofondateur du séminaire Métis de Sciences Po sur les politiques de renseignement, responsable de la coordination des enseignements sur le renseignement à Sciences Po et co-auteur avec Jean-Claude Cousserand de Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Michel Terechenko, à l'approche de la date anniversaire du 11 septembre, je reprends la question que vous posez dans votre ouvrage. La démocratie a-t-elle passé avec succès le test auquel elle a été soumise après les attentats de 2001 ?
Vous savez, cette question qui est effectivement posée dans le livre, elle est d'abord empruntée à un détenu à Guantanamo qui a publié un très beau livre qui s'appelle « Les carnets de Guantanamo », Mohamedou Ould Slahi. Et je crois que vous avez raison de poser cette question parce que précisément, elle n'est pas posée. À savoir le fait que nous devrions avoir une évaluation critique au fond des politiques publiques qui ont été menées, disons en Occident, pris au sens large aux États-Unis, mais aussi en France, qui ont été menées donc pour la lutte contre le terrorisme. Et cette question, à savoir si c'est un test, oui, si les démocraties ont passé ce test, et bien évidemment il faudrait préciser quelle est la nature même de cette question et les aspects critiques qu'il faudrait envisager, n'est pas, je crois, posée. Et je crois qu'il est essentiel, malgré tout, quelles que soient les positions que l'on puisse avoir, de la poser de façon claire, franche, honnête, objective, à savoir, qu'en est-il du respect des principes fondamentaux et structurants des démocraties aujourd'hui et, en gros, en effet, depuis le 11 septembre. Mais en particulier, alors si je peux juste ajouter, cette question a tout de même est d'autant plus justifiée que le Sénat américain, comme vous le savez, a publié un rapport accablant sur les politiques de torture menées par la CIA au lendemain du 11 septembre, qui a été rendu public donc en décembre 2014. Et qui n'a pas eu l'écho, je crois, ce rapport qu'il devrait véritablement avoir, en particulier en France.
Alors, Philippe Ayer, je me tourne vers vous. Finalement, à entendre ce que dit Michel Terechenko, on a un peu le sentiment que les choses se passent et tout cela sans finalement beaucoup de réactions.
Écoutez, ça dépend des pays. Hein. Aux États-Unis, à partir de ce rapport, la réaction a été vigoureuse dans un contexte politique de préparation d'une campagne présidentielle par ailleurs. C'est vrai qu'en Europe, ce très volumineux rapport, on n'en connaît d'ailleurs que la synthèse, il a mis beaucoup de temps à être publié, n'a pas eu forcément le succès médiatique qu'il aurait pu avoir. On attend peut-être sa publication en français, en résumé. J'y ajoute, pour aller dans le même sens, un autre travail britannique assez intéressant, il est plus sur les échecs du renseignement, notamment vis-à-vis de l'Irak en 2003, pourquoi les Américains et les Britanniques sont allés en Irak. Il y a une commission qui a été nommée, qui s'appelle la commission Chilcot, du nom de son responsable actuel. C'est une commission qui travaille depuis 6 ans, dont on ne sait pas quand elle va déboucher. Elle a entendu Tony Blair, les responsables des services, les responsables politiques de l'époque, et il y a une espèce de placidité. On ne sait même pas quand M. Chilcot, dont le coût des travaux a été très élevé, publiera ses résultats. Donc on peut effectivement considérer qu'on l'opinion aussi entre une espèce de placidité et puis évidemment d'inquiétude, de crainte qui peut être alimentée par les événements que nous voyons.
Alors placidité, Michel Terechenko, vous dites-vous que la guerre contre le terrorisme a trop souvent été menée dans le mépris du droit, alimentant une spirale sans fin de haine?
Oui, je crois qu'il y a une question comme... Il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est-à-dire malgré tout ce que j'appelle des violences en miroir. C'est-à-dire une vision tout à fait manichéenne et au fond de part et d'autre entre le bien et le mal. et en l'absence de sous-stratégie, puisque vous avez posé en effet la question de la stratégie. Et puis il y a la question, donc ça évidemment c'est un point qu'il faudrait développer, je crois que nous ne pouvons pas nous en tenir, si vous voulez, à une vision tout à fait manichéenne qui consisterait à dire eux et nous, nous qui serions les dépositaires, si je puis dire, et respectueux des principes fondamentaux de la démocratie, et de l'autre côté, une barbarie aveugle qui, sans aucun doute, est bien réelle, mais dont il faudrait comprendre et les raisons, et l'idéologie, et l'origine, enfin bon, tout ce travail que j'essaye de mener dans ce livre. Et puis il y a la question du respect du droit. Et je crois qu'il y a une... qu'on peut vraiment prouver qu'il y a une véritable fragilisation, si je puis dire, du droit et de notre rapport au droit, et même de notre conscience de la fonction structurante des principes du droit dans nos sociétés, qu'il y a, pour reprendre l'expression de Philippe Hayet, effectivement une placidité, je verrais les choses de façon peut-être encore plus pessimiste, une véritable passivité à l'égard de précisément de ces politiques, de cette remise en cause de ces principes structurants fondamentaux du droit. Et je crois que c'est cela le plus inquiétant. La manière dont précisément les opinions publiques sont dans une situation tout à la fois effectivement de sidération, d'inquiétude et de passivité qu'on peut analyser dans ces différentes raisons.
Alors passivité, sidération, Philippe Hayet, je le disais en introduction, le Parlement français a donc récemment, c'était avant l'été, étendu les pouvoirs de surveillance du gouvernement. Comment jugez-vous cette loi et là aussi, comment expliquez-vous qu'elle soit passée si facilement auprès de l'opinion publique?
Oui, alors moi je n'ai pas tout à fait la même perspective parce que évidemment mon objet d'étude c'est les politiques du renseignement, l'usage du renseignement, de ce qu'on met derrière la notion en démocratie, dans nos démocraties, il y a plusieurs modèles, et donc je prends une perspective qui est antérieure à celle du 11 septembre 2001, qui est de regarder, on va pas remonter à la Révolution française, mais en tout cas depuis plusieurs décennies, notamment à la lumière de la montée du phénomène terroriste et des politiques de réponse au terrorisme, l'évolution des appareils de renseignement et des politiques de renseignement. Et de fait, la perspective n'est pas aussi négative qu'un regard court-termiste pourrait le faire croire, il y a une volonté d'insérer le renseignement dans les démocraties, alors que c'était il y a 50 ans, par exemple, un objet tout à fait, un corps étranger, un corps dont on ne parlait pas, un corps qui n'avait pas de statut, y compris juridique, un corps qui n'avait pas de dispositif de contrôle parlementaire. Et donc on peut voir, pour tempérer un excessif pessimisme, l'évolution des politiques du renseignement comme une volonté sur plusieurs, des gouvernements, mus par les citoyens bien sûr, d'essayer d'insérer ce corps complexe, difficile, étranger, dans le contexte démocratique. D'où l'ambition qui est à la fois de renseigner les démocraties, c'est-à-dire d'être efficace. Une politique de renseignement n'a aucun sens si elle n'est pas efficace. C'est un colossal défi que celle de son efficacité. Le renseignement connaît des échecs, on pourrait revenir si vous le souhaitez. Mais aussi de renseigner en démocratie, effectivement, sans pervertir les normes, les règles, les principes de la démocratie. Et donc, il faut se souvenir, c'est peut-être pas le cas de tous les jours pour ceux qui sont en charge de ça, que la première finalité du renseignement, c'est de défendre les démocraties. Et donc si le renseignement oublie cette mission qui est de défendre la démocratie et s'il l'affaiblit par des dérives, des pratiques, un mauvais pilotage, des abus, bien s'il y a un côté, il travaille contre lui-même, il travaille contre l'objectif qu'il doit servir. Et donc cette évolution, je reviens à la situation française, nous venons de loin en France, nous n'avons pas une culture très 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 favorable au renseignement pour des raisons qui remontent au moins à l'affaire Dreyfus et à d'autres. Et donc par rapport à d'autres pays, si on raisonne en termes de normes, nous étions, il y a encore quelques années, très en décalage, puisque nous n'avions ni assise législative, statutaire, sur l'enseignement, ni dispositif de contrôle, ni dispositif de pilotage, très assuré. Bon. C'est au milieu des années 2000, donc après le 11 septembre, qu'un mouvement, pour des raisons un peu complexes, jeu politique français aussi s'est fait, qui visait d'abord à créer une notion de communauté nationale du renseignement, on est en 2006-2008, à faire en sorte qu'on revendique le pilotage politique au niveau de l'État, avec le président de la République, qui, en gros, le renseignement c'est moi, qui assume ce pilotage et qui rompt avec une distance prudente en disant « Oula, je préfère ne pas savoir ce qui s'y passe ». Bon, et puis nous en venons progressivement à la mise en place d'un contrôle parlementaire en 2007. Et enfin, et c'est un projet qui ne date pas des 6 derniers mois, à l'idée qu'il n'est la France doit rompre avec une anomalie qui est de ne pas avoir de loi statutaire, organique en quelque sorte, qui encadrerait les activités d'enseignement. Alors que les Anglais et les Britanniques en disposaient depuis 1994, les Allemands depuis 1978, et que tous les pays de l'Union européenne, pour en rester dans ce cadre, sauf un ou deux du genre Chypre, disposaient d'un cadre législatif. Et donc, nous sommes partis dans cette direction, grâce notamment au président de la commission des lois actuelle, Monsieur Urvoas, qui très tôt s'est engagé dans cette direction. L'idée étant, encore une fois, publiquement, d'essayer de définir les finalités du renseignement, les activités qui s'y rattachaient, les services, les administrations qui étaient habilitées à y intervenir. Bon, et puis, évidemment, les dispositifs de contrôle. Et puis, les attentats de janvier surviennent, nouvelle vague d'émotions, peut-être petite secousse par rapport au 11 septembre.
Grosse vague d'émotions.
Voilà. Donc on est dans un contexte un peu comparable au post 11 septembre, un peu comparable compte tenu de l'émotion publique et de l'inquiétude qui n'a pas disparu d'ailleurs aujourd'hui avec les derniers développements dans les trains. Et donc on prend une espèce d'urgence qui s'instaure. Il nous faut absolument accélérer le passage de cette loi qui était projetée. Et cette loi prend un tour qui n'est pas son tour initial, qui est un tour d'être une loi antiterroriste de plus. Et là, pour le coup, on en était à 16 ou 17 en France. Bon. Et donc il y a cette ambiguïté, j'en termine là à ce stade, qui est de dire c'est une loi qui renforce les pouvoirs de l'État, qui ajoute encore dans une espèce de vision, une vision orwellienne de ce que pourrait être l'État démocratique en France, alors qu'initialement, c'était une loi qui visait à encadrer, à donner plus de garanties. Voilà. Donc on en est dans une sorte de contradiction apparente qui est résumée par la loi elle-même.
Alors, Michel Tereschenko, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Philippe Hayet ?
Je crois que ce que vient de dire Philippe Hayet pose très clairement la question, c'est-à-dire d'un côté, et le problème, c'est-à-dire d'un côté on peut dire que c'est une avancée, si je puis dire, qu'il y ait de fait un dispositif législatif qui encadre, qui donne d'une certaine manière une certaine forme de publicité, si je puis dire, à ces pratiques secrètes, et cet aspect-là est évidemment un aspect... en un certain sens que l'on peut qualifier de positif. Et puis il y a par ailleurs le contenu même, disons, des autorisations qui sont données aux services de renseignement, et la question tout de même centrale qui est celle du contrôle, c'est-à-dire du contrôle administratif ou du contrôle judiciaire. Et là, sur ce point-là, beaucoup de magistrats, et même de magistrats de l'antiterrorisme, ont tout de même manifesté de très très vives inquiétudes à l'égard de cette loi. Et puis, elle s'inscrit elle-même, bien sûr, il y a des politiques françaises, il y a aussi, bien sûr, les politiques américaines, au lendemain du 11 septembre et le Patriot Act. Et tout de même, tout ce que nous avons appris sur le dispositif de surveillance et de surveillance par les agences américaines de renseignement, et en particulier la NSA, est ce que nous avons appris grâce aux révélations d'Edward Snowden, et dont un livre, je signale d'ailleurs un livre tout à fait remarquable, puisque le journaliste qui a rencontré Snowden à Hong Kong au moment même des révélations, Glenn Greenwald, a publié un livre traduit en français, Nulle part où se cacher. Et là aussi, je crois que c'est un livre dont on n'a pas suffisamment parlé, alors qu'il est tout à fait remarquable. Par contre, il y a eu aussi le documentaire Citizen Four, là, qui a eu une plus grande publicité. Mais enfin, pour revenir sur la question du Patriot Act et de son évolution, et en effet, donc, des moyens de surveillance, ça pose quand même des questions tout à fait fondamentales aux démocraties. La question tout à fait générale, assez simple, qui est celle évidemment du respect de la privauté et enfin de la vie privée, qui est un principe constitutif tout de même des démocraties libérales sur lesquelles nous devons nous interroger. Ce qu'il en reste, ce qu'il en restera, quels sont les... Ce qui m'intéresse, si vous voulez, juste ce dernier point que je voudrais souligner, ce qui m'a intéressé dans ce livre, ce n'est pas simplement les politiques antiterroristes qui ont été mises en œuvre sous leurs différents aspects, c'est aussi les dynamiques de transformation sociale qui sont mises en œuvre à la faveur ou au prétexte de ces politiques. C'est pas simplement qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, quelle était la loi qui a été votée, mais quelles sont les dynamiques sur, disons, le moyen ou le long terme de transformation des sociétés démocratiques libérales. Et je pense que nous devons envisager les questions précisément sur le long terme, à la fois du point de vue du passé, donc comme le fait Philippe Hayet, et en même temps, dans ces dynamiques de transformation, c'est-à-dire qu'est-ce que cela produit, engendre, rend possible, éventuellement menace au sein même de nos démocraties, qu'est-ce qu'il restera de ces principes fondamentaux et structurants, en particulier de l'aspect de la vie privée, disons, d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, alors que les moyens technologiques se seront développés considérablement.
Alors, on reviendra, Philippe Hayet, sur ce qu'évoque à l'instant Michel Tereschenko, ces dynamiques de transformation sociale et le rôle finalement d'Internet, c'est-à-dire que l'usage d'Internet a peut-être aussi eu comme conséquence une sorte d'acceptation plus facile de ces contrôles, puisque de toute façon, sur Internet, le commun des mortels est lui-même contrôlé. Mais j'aimerais juste revenir, pour terminer cette première partie d'émission, et on a 5 minutes, vous évoquiez les attentats de janvier dernier en France contre Charlie Hebdo, avec l'urgence qui s'est donc instaurée. J'aimerais revenir, moi, tout de même, sur cette comparaison avec ce qu'en font les Américains. En d'autres termes, on met sur pied, nous, une loi en juin 2015, et on fait quelque chose que les Américains sont en train de défaire. Michel Tereschenko évoquait le Patriot Act, qui s'est transformé en Freedom Act, c'est-à-dire qu'il y a un assouplissement du côté des États-Unis alors que nous, nous durcissons. Voilà, j'aimerais comprendre cette sorte de contradiction des politiques.
Je vois pas ça exactement comme ça. La réalité, c'est que le Patriot Act est une loi de circonstance, une loi d'émotion, comme il y en a eu d'autres, y compris en France, une loi du jour d'après, d'après l'attentat, dans l'émotion. Et donc, cette loi a conduit à maximiser la volonté et les possibilités de collecte technique d'informations big data, donc sur les citoyens américains. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite.
Une loi d'émotion qui a quand même duré 14 ans.
Oui, mais enfin, elle a été prise. Le contexte dans lequel elle a été prise, c'était l'époque où le vice-président Cheney disait qu'il fallait enlever les gants pour lutter contre l'hydre terroriste. Et donc, elle est dans ce contexte. Elle a évolué un petit peu, c'est vrai. Obama ne l'avait pas abrogé jusqu'ici. Et donc, c'est effectivement, d'ailleurs, d'une certaine manière, grâce à l'impact de Snowden, qui de fait a joué un rôle de prise de conscience, que on vient d'adopter, le Congrès américain vient d'adopter le Freedom Act. Alors on est plutôt sur une révision d'un dispositif antiterroriste, non pas sur une loi sur le renseignement, c'est pas tout à fait la même perspective qu'en France, avec le sentiment qu'on est allé trop loin, qu'on a surréagi et qu'il faut donner des gages dans les systèmes de contrôle. Bon, encore une fois, en France c'est pas la même chose, on régularise, si je puis dire, des pratiques qui existaient, qui n'avaient pas de cadre légal. On donne, je ne reviens pas sur l'aspect organique de la loi, un cadre, mais on n'est pas tout à fait dans le même concept. Mais ce qui me frappe, vous voyez, pour vous montrer bien les différences culturelles qui subsistent entre nos deux vieilles démocraties, c'est que je ne vois pas le Freedom Act comme un progrès nécessairement, c'est un remords par rapport au Patriot Act, mais vous savez quelle est une des dimensions principales du Patriot Act, c'est que la NSA, l'odieuse NSA, se voit maintenant interdite de conserver ses données, et que les données collectées dans des conditions un peu plus procédurales sur les citoyens ou sur les cibles des agences de renseignement américaines seront dans des entrepôts de données privés. Et donc on passe du public au privé. Et on donne, alors avec des accords à négocier, évidemment, il y avait des relations déjà avec l'entreprise, etc. Je ne vois pas ça en tant que citoyen français comme un progrès. Je considère que nous devons avoir une conception que l'État est gardien de l'intérêt général et que on considère que le privé, les grandes entreprises américaines, ce qu'on appelle le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, présentent plus de garanties qu'une agence publique américaine sous le contrôle de l'exécutif du Congrès, moi, me stupéfie.
La NSA sous contrôle de l'exécutif et du Congrès américain, je vais plus loin, Angela Merkel qui s'est fait écouter son téléphone par la NSA, la question qui se pose est de savoir est-ce que le président américain, en l'occurrence Barack Obama, était ou non au courant, Philippe Bayet.
C'est une question centrale. Cette anecdote, si je puis dire, de l'écoute du téléphone de Madame Merkel, qui l'a beaucoup agacée, montre bien le dilemme dans lequel l'exécutif aux États-Unis et peut-être ailleurs se trouve vis-à-vis de ces machines complexes de renseignement, car nous avons beaucoup investi, elles sont très complexes techniquement, elles sont secrètes pour partie, et elles sont encore une fois dans un degré de complexité que peu d'administrations atteignent. Eh bien, deux choses l'une, ou bien l'exécutif est tenté d'en faire un mauvais usage, d'aller trop loin, parce que c'est Prométhée, on a découvert le feu, et on peut en faire un usage, et encore une fois, il est important que la finalité du renseignement soit bien écrite dans les textes, et qu'on n'en sorte pas. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, en gros, d'écouter un petit peu les alliés, c'est la première hypothèse, ou bien pire et probablement plus réaliste, on délègue, on laisse faire, on ne comprend pas trop, on ne veut pas regarder, et un certain nombre de créatifs au sein de ces agences, il y en a, décident que finalement, puisqu'on peut le faire, faisons-le. Et donc là, on est dans une logique sur laquelle il serait intéressant d'entendre Monsieur Tereschenko. Le renseignement, c'est une éducation à l'auto-limitation. La technologie nous permet, et l'urgence, le sentiment de panique face à un monde qui nous échappe, nous permet de faire des tas de choses. Comment parvenons-nous à nous auto-limiter et à le faire comprendre aux citoyens?
Alors, ce sera peut-être la question que je vous poserai, Michel Tereschenko, pour ouvrir la deuxième partie de cette émission, parce que sinon, vous n'avez que 30 secondes pour nous répondre, ce qui, évidemment, serait profondément dommage. Donc, cette question à venir, le renseignement est-il une éducation à l'auto-limitation, comme Philippe Payet vient de nous le dire? Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Michel Tereschenko et Philippe Payet, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, liberté et droits de l'homme sont-ils condamnés dans nos démocraties? L'Occident est-il en train de se renier, de compromettre les valeurs qu'il porte en étendard dans le monde? Est-ce qu'il se trompe de stratégie? Nous retrouvons nos invités depuis les studios de nos confrères de Radio France à Aix-en-Provence. Michel Terechenko, universitaire et philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'ère des ténèbres, paru aux éditions du Bord de l'eau. Et Philippe Ayer, cofondateur du séminaire Métis de Sciences Po sur les politiques de renseignement, responsable de la coordination des enseignements sur le renseignement à Sciences Po et co-auteur avec Jean-Claude Cousserand de Renseigner les démocraties, Renseigner en démocratie, paru chez Odile Jacob. Michel Terechenko, on a terminé la première partie de l'émission avec cette question de Philippe Ayez, en tout cas sur la notion du renseignement, bien sûr, puisque c'est le sujet de cette émission aujourd'hui. Est-ce que le renseignement est une éducation à l'autolimitation?
Ben, c'est certainement une question tout à fait essentielle et qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors il faut s'entendre sur le terme de éducation à l'autolimitation. Le premier point, c'est la notion d'autolimitation elle-même. Parce que ce qui est constitutif d'une démocratie libérale, et au fond depuis ce qu'ont pensé les grands théoriciens de la pensée libérale depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est précisément cette limitation de la souveraineté. Et cette limitation de la souveraineté qui protège un espace privé qui échappe à tout contrôle social et à tout contrôle politique. Donc cet espace d'indépendance qui garantit les droits individuels. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'inquiéter, et plus que s'inquiéter, de cette remise en cause de cet espace de privauté, de cet espace de liberté qui échappe à tout contrôle et qui défend ce qu'on peut appeler ce principe d'une personnalité inviolable. C'est-à-dire c'est un espace d'inviolabilité, qui est l'espace de la privauté. Précisément, ce que les techniques de surveillance, alors qu'elles soient mises en œuvre par les gouvernements ou, bien évidemment, et peut-être plus encore, par des sociétés privées comme Google, Facebook, etc. Bon, cet espace est en train, tout simplement, de voler en éclats. Les révélations Snowden, de ce point de vue-là, sont non seulement accablantes, mais tout simplement terrifiantes. Et on doit tout de même s'inquiéter du contrôle de cette question de la limitation. Qui peut être l'instigateur de cette limitation? Est-ce que c'est l'État, les agences de renseignement? Est-ce qu'ils obéissent eux-mêmes à ce principe d'autolimitation? Je ne crois pas que la loi que vous avez évoquée aille dans ce sens-là, en tout cas, constitue une véritable inquiétude. Donc, non, c'est-à-dire, sans exagération, il y a une profonde inquiétude, c'est-à-dire que toutes nos vies, si vous voulez, deviennent, dans nos pratiques en effet, par le téléphone, internet, courriel, enfin tout ce que vous voulez, etc., tout ça peut être entièrement surveillé. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inouï et sans précédent. Et de fait, internet et les nouvelles technologies, bien sûr, ont totalement bouleversé, effectivement, les conditions de notre propre existence auxquelles nous étions accoutumés il y a encore 20 ou 30 ans. Ce sont des bouleversements tout à fait sans précédent. Et l'argument de la sécurité, naturellement, ne peut pas suffire à justifier ces intrusions invasives dans cet espace de privauté qui remet en cause, en effet, ce principe fondamental de la personnalité inviolable, ou de l'inviolabilité de la personne.
Alors, Philippe Ayer, je reviens vers vous. Intrusion invasive, pour en revenir à cette loi qui a donc été votée au début de l'été en France. D'aucuns dénoncent son ambiguïté sur le renseignement, en particulier le fait que son contenu est large parce qu'elle permet une surveillance dans de multiples domaines, les intérêts économiques, scientifiques, les intérêts de la politique étrangère, la criminalité, la délinquance organisée, les violences collectives. Ça fait un spectre extrêmement large. Comment vous réagissez à cet élargissement finalement des pouvoirs?
Prudemment, parce que cet élargissement est aussi un peu apparent. Quand on regarde la seule loi qui existait sur un petit pan du renseignement, qui était le contrôle de ce qu'on appelle les interceptions de sécurité, donc loi de 1991, qui crée une commission qui vient de disparaître, qui était la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, on trouvait déjà six motifs de recours au renseignement, aux interceptions de sécurité, aux écoutes, pour parler un français simple, qui étaient bien plus large que la seule utilisation de cet instrument par rapport face au terrorisme ou à l'espionnage. Bon, et donc ça nous rappelle quelque chose, et il est bon qu'il y ait eu un débat, il est très bon qu'il y ait eu un débat, et je ne dis pas que la solution est pérenne, mais là on vient de définir le champ du recours au renseignement, qui montre bien que le renseignement n'est pas qu'une arme sécuritaire, on l'avait un peu oublié, ça n'est pas simplement se défendre par rapport à des menaces imminentes comme le terrorisme ou l'espionnage, mais c'est aussi dans la conception démocratique du renseignement, comme la diplomatie ou la défense, un outil d'autonomie. Moi, je ne suis pas choqué quand on dit que, par exemple, le renseignement doit accompagner nos efforts de politique extérieure. Le rôle du renseignement, quand on, par exemple, on conclut un accord avec l'Iran, le rôle de surveillance des engagements que prendra l'Iran dans les jours qui viennent ou qu'a pris, etc., c'est typiquement quelque chose qui ne peut pas être réduit à une simple menace directe contre le citoyen dans le métro. Ce serait abusif de brandir cet étendard. Mmh. Voilà. Donc le champ ne me choque pas. Simplement,
même dans le domaine économique.
Alors, deux sujets. Il y a premièrement un risque de panique d'autorité qui est de dire « Oh là là, la France m'inquiète ». Et quand on a des troubles à l'ordre public, des manifestations, des zadistes et des choses comme ça, il ne faut pas brandir le renseignement en premier. Et donc, il faut auto-limiter précisément l'objet du... Enfin, la société française n'est pas l'objet premier du renseignement. Mmh. Il y a d'autres techniques pour ça. Il y a des sociologues. Il faut auto-limiter sévèrement. Et là, il y a eu des tâtonnements manifestes. Sur l'économie, là aussi, il y a une tentation. Mmh. Dans un pays qui connaît des difficultés économiques, qui est... un peu dominé par la mondialisation économique, on pourrait croire que le renseignement est l'arme magique et qui permettrait de surmonter nos problèmes de compétitivité et autres. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et donc, recourir, c'est une tentation permanente, hein, recourir au renseignement pour donner un avantage compétitif, faussement compétitif à des entreprises françaises face à leurs concurrents principaux qui, surprise, se trouvent être des entreprises allemandes ou américaines. À titre personnel, en tout cas, je pense que c'est une grave erreur. En revanche, protéger nos entreprises, y compris nos entreprises et pas simplement leurs employés quand ils sont à l'étranger, relève bien de cette mission. On pourra détailler si vous souhaitez. Donc l'économie n'est pas un mot obscène. Il faut simplement s'autoriser. Deux domaines sur lesquels il faut régler finement la chose. Mais ce qui me paraît très important dans le dispositif qui se crée, hein, même si on ne le lit pas comme ça, c'est que encore une fois, le renseignement est un outil. La loi emploie pour la première fois le mot de politique publique du renseignement, et j'en suis très heureux, puisque ça fait quelques années que nous travaillons là-dessus. Mais c'est un outil qui doit être, je reviens sur la notion d'autolimitation, qui doit être sévèrement enserré. Alors, d'abord, il faut considérer qu'il y a des fins légitimes du recours au renseignement. Et donc la loi donne ses fins, les citoyens doivent discuter pour savoir s'ils sont d'accord ou les représentants des citoyens, mais il y a toujours cette tentation d'un détournement de l'objet à des fins politiques, de survie, voilà. Deuxièmement, le renseignement est une arme de dernier recours. Il doit y avoir un principe de subsidiarité. On ne recourt pas par réflexe, par facilité, en appuyant sur un bouton, au renseignement. Troisièmement, et ça c'est pas tout à fait dans la loi, et c'est tout l'apport du Conseil constitutionnel, puisque vous savez, cette loi a été soumise, déférée par le président de la République, notamment au Conseil constitutionnel, c'est une première, et a été censurée en partie.
Hein, bon. Sur eh bien, des éléments assez en marge. Mais
oui, mais en même temps, il y a des commentaires positifs quand on lit cette décision. Bon, au milieu du mois de juillet, c'est un peu compliqué pour certains, mais j'invite les auditeurs à la lire, en complément de la loi du 24 juillet. Le Conseil constitutionnel insiste bien sur la proportionnalité du recours. C'est-à-dire, utiliser des techniques qui sont des techniques intrusives, dérogatoires au sens commun, peut être fondée à condition qu'il y ait une proportionnalité avec l'enjeu. Et là, ça devient très intéressant. Peut-être que M. Tereshchenko a un avis sur ces points. Cette trame de principe qui sont des fondements juridiques, mais aussi qui relèvent de l'éthique, de l'action publique, etc., le renseignement, comme dans d'autres pays, est en train de les acquérir. Alors, il n'y a pas une grande charte, ça se lit un peu en creux dans les textes de la loi, mais je crois que là, on avance.
Alors, on avance. Michel Tereshchenko, moi, je voudrais qu'on se pose quelques instants sur le fond, finalement, de ce qui se joue avec cette nouvelle loi. Ce qu'on peut constater, c'est que ce qui est recherché aujourd'hui, c'est l'intention criminelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte, justement, autour de la question de savoir jusqu'où on ira dans l'anticipation? La juriste, Madame Delmas Marty, parle d'une forme de déshumanisation parce que le propre de l'homme est l'indétermination. Quel est votre regard sur cette intention criminelle et sur l'anticipation?
Alors ça, c'est en effet une question absolument centrale, parce que ce qui est en question, ce ne sont pas les actions qui ont été commises, mais les actions qui pourraient éventuellement être commises et qui relèvent des comportements et donc plus généralement du profilage. Or, ces pratiques ont été mises en œuvre et la Cour constitutionnelle, par exemple, fédérale allemande, en 2006, a condamné ces pratiques de profilage préventif qui consistaient donc à détecter un groupe de personnes désignées par un ensemble de traits communs comme étant potentiellement dangereux. Et là, il y a une vraie question extrêmement profonde qui porte justement sur, et ça, la NSA le fait déjà, mais des moyens technologiques vont permettre de le faire de plus en plus.
Et les fameux algorithmes, etc.
Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas, en effet, de se renseigner simplement sur ce que les individus font, mais sur un profilage, une espèce d'identité numérique ou de corps numérique qui conduit finalement à quoi? à ce que tout citoyen peut éventuellement être considéré comme un suspect potentiel, c'est-à-dire non pas comme un innocent, si je puis dire, dont il faudrait apporter la preuve qu'il a porté un crime à partir de ce principe précisément de la présomption d'innocence, mais une espèce de renversement, si vous voulez, de la présomption. Et cette espèce de logique de la sécurité qui introduit le danger d'une espèce de suspicion généralisée, non pas nécessairement que les États succombent à des dérives totalitaires, etc. Mais qu'est-ce que ça crée ? Ça crée malgré tout un climat existentiel, si je puis dire, qui est celui de l'insécurité. C'est-à-dire, si vous avez le sentiment, ou même la conscience, la certitude, qu'en effet, toutes vos actions sur Internet peuvent faire l'objet de surveillance pour une raison X ou Y, qu'il s'agisse des États ou qu'il s'agisse des sociétés privées elles-mêmes, eh bien, il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire ce renversement, si vous voulez, du principe que les citoyens sont d'abord innocents et que c'est au fond à l'État d'apporter la preuve de leur culpabilité. Là, il y a une espèce de présupposé, si je puis dire, d'une culpabilité potentielle, sinon pour tous les citoyens, en tout cas pour un ensemble de citoyens qui peuvent constituer des dangers ou dont les comportements peuvent constituer des dangers potentiels. C'était précisément ce qui s'est passé en Allemagne et ce que la Cour fédérale a en effet condamné, parce que c'était à l'égard d'une population, et en l'occurrence, en effet, plutôt de population musulmane. Donc, c'est pas du tout la même chose. Dès lors que ce sont des comportements, si vous voulez, qui peuvent être, en quelque sorte, par une espèce d'anticipation et de profilage préventif, surveillés et mis en évidence, et là, il y a une évolution tout à fait fondamentale, et philosophiquement tout à fait fondamentale, du rapport entre l'individu et l'État.
Et vous parlez-vous de vie étouffante, Michel Tereschenko ?
Ben oui, parce que vous savez, c'est le mot terrible de Ben Laden au lendemain des attentats du 11 septembre et qui donne un peu la clé, je crois, du projet des attentats du 11 septembre dont on ne savait pas véritablement quelle était la finalité, où il dit à un journaliste que les droits de l'homme sont condamnés aux États-Unis, nous allons créer les conditions d'un enfer sur Terre et d'une vie étouffante. Il y avait là une espèce d'intelligence, si je puis dire, et de projet, je crois, en effet. Et alors, quand Philippe Ayer parlait effectivement de ces lois de circonstances, en effet, ça a été des lois de circonstances, et des lois terrifiantes de circonstances, que la torture, les déportations, et, enfin, dans les centres de détention secrets, enfin, bon, en effet, des politiques de circonstances. Et donc, on n'a peut-être pas véritablement pris conscience qu'il y avait un véritable projet, en réalité, et que Ben Laden avait parfaitement compris qu'en réalité, le terrorisme et les attentats du 11 septembre allaient fragiliser les démocraties, c'est-à-dire au sens où elles allaient répondre d'une manière qui les fragiliserait et qui fragiliserait leurs propres principes. Pour répondre précisément à la question que vous posiez au début sur les démocraties ont-elles passé avec succès le test. Cette espèce d'auto-fragilisation, si je puis dire, dans le renoncement effectivement à un certain nombre de principes, au nom en effet de politique de circonstance, je ne dis pas que la France a agi de la même façon, et de fait ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Enfin, il y a tout de même beaucoup d'inquiétudes, je crois, et c'est pour ça que je crois qu'on doit en appeler à un débat public tout à fait raisonné, objectif, sur l'ensemble de ces questions, non seulement depuis le 11 septembre, mais aussi dans l'actualité même.
Alors, fragilisation de la démocratie, Philippe Ayer, je me tourne vers vous. Je reprends l'inquiétude de Madame Delmas Marty. Elle dit que tous les ingrédients sont réunis pour une guerre civile mondiale et permanente. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Et finalement, qu'est-ce que la démocratie peut faire pour se protéger ?
Oui, c'est toute la question. Donc, le guerre civile mondiale permanente, c'est une horreur, c'est un fantasme. Donc, il faut éviter que ça n'advienne pas. Je pense pas qu'elle est pour demain, mais effectivement, on est dans une société Léviathan dans cette perspective, et toute l'évolution de notre conscience prédémocratique, libérale, construction nationale, est de sortir du Léviathan et d'avoir un édifice effectivement qui ne tombe pas à bas sous les coups de quelques avions. Le sujet fondamental, je suis tout à fait d'accord sur le fond avec l'inquiétude de M. Tereschenko, c'est que le renseignement est un instrument de ce que Karl Popper appelait la société ouverte, et que le renseignement n'a pas, d'abord le renseignement c'est quoi, des appareils, des techniques, des organisations, des bureaucraties, il a des maîtres, j'espère, le renseignement ne doit pas contribuer à la fermeture de la société ouverte dans laquelle nous vivons, et on peut toujours mesurer son degré d'ouverture, on peut être pessimiste aussi de ça, mais il y a des évolutions. Nous voyons bien que nous parlons depuis quelques instants de l'impact des technologies, de l'information sur nos vies. Il est là, cet impact. Alors on peut, et comme le disait M. Tereschenko, il dépasse bien la sphère de l'intervention de l'État, puisque le débat sur les cookies est un débat qui est très, très voisin de celui qu'on peut avoir maintenant. Donc le renseignement doit s'adapter, il doit être efficace, c'est tout son dilemme. humaine, et donc les technologies évoluent, donc je ne crois pas, il ne faut pas donner l'image qu'on puisse s'en remettre à des machines, comme on le ferait pour des machines à tuer avec les drones, mais il est face au big data, face aux données massives, il faut que les services de renseignement s'adaptent, et la dimension technologique du renseignement est quelque chose qui a aussi explosé depuis au moins une vingtaine d'années, y compris en France. Bon, pour autant, il n'y a pas de fatalité, je pense qu'on peut malgré tout adapter, pas simplement sur le plan de l'assise juridique, ces outils, et quelque chose que nous n'avons pas évoqué, mais qui me paraît fondamental, on ne peut pas croire que le renseignement soit simplement une sorte d'édifice juridique, ni même de inspiré par l'intervention, c'est l'intervention du politique. Le renseignement est une affaire politique, en France on s'en méfie, parce que quand on dit politique, on dit politisation, donc risque de mauvais usage et déviation, mais l'homme et le responsable public, doit assumer le renseignement et le maîtriser. Bon, et donc dès lors qu'il y a des automatismes, la tentation du renseignement, les trois pièges du renseignement, on vient de les évoquer, c'est la technologisation, c'est clair, c'est à mes yeux, je l'ai un peu évoqué, la privatisation, c'est une affaire régalienne et la loi dit il n'y a que l'État qui est la compétence pour exercer un peu comme la police ou la
Mais les frontières sont devenues extrêmement floues.
Les collaborations, etc. Donc il faut y travailler. Hein. Ça mérite peut-être des explications complémentaires, en effet. Bon. Et le troisième piège du renseignement, c'est sa bureaucratisation. Les machines à renseigner, les machines humaines. Bon. Et donc le tempérament à cette évolution, c'est que les autorités politiques construisent des chaînes de décision qui n'existent pas toujours, sachent dire non. Non, je ne le ferai pas. Les risques éthiques, les risques juridiques, et assume dans des conditions vis-à-vis, par exemple, d'une représentation parlementaire, parce qu'on n'a pas parlé de secret, mais tout ça ne se fait pas nécessairement sur la place publique, mais assume un usage suffisant du renseignement. Donc il n'y a pas de fatalité, mais ça n'est pas simplement avec une loi ce qu'on peut dire pour conclure cette loi. La loi est un élément, une pièce intéressante. Tout n'en résultera pas. Et il y a encore beaucoup de bons usages à développer de cet outil.
Pour conclure, Michel Tereschenko, j'ai presque envie de dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde beaucoup plus complexe qu'il n'était. Philippe Hayet évoquait les débuts du renseignement. On n'est plus du tout dans les mêmes schémas. Et finalement, notre plus gros problème, c'est notre difficulté à nous adapter à cette imprévisibilité du monde.
Oui, mais je dirais que poser la question en termes d'adaptation est un peu dangereux et parce que précisément tout se passe comme si c'était toujours après que nous devions nous adapter et non pas avant que nous devions orienter, si je puis dire, le monde et son évolution selon des choix qui seraient véritablement acceptés et décidés. Il y a quelque chose de très dangereux à être contraint, si je puis dire, à une espèce d'adaptation permanente à une évolution que nous n'avons pas choisie. Mais ça, c'est une question philosophique tout à fait fondamentale sur le contrôle démocratique à l'égard du progrès technologique. Je crois que malgré tout, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe Hayet, c'est une question politique. C'est en effet pas une question technique, c'est une question politique. Simplement, c'est une question politique que l'on ne peut pas confier simplement aux politiques eux-mêmes et à l'exécutif et peut-être même à l'État. Il faut malgré tout qu'il y ait des instances de contrôle indépendantes. C'est pour ça, par exemple, le rôle du judiciaire et la mise à l'écart du juge dans cette affaire est très inquiétante et en effet a suscité des protestations légitimes de la part du syndicat de la magistrature. Mais donc la question du contrôle et donc du contrôle indépendant.
Très rapidement.
Ça me paraît absolument. Voilà, ça c'est fondamental. Et puis ultimement, malgré tout, un débat public. Nous n'avons pas besoin de tout savoir, mais malgré tout, nous ne pouvons pas être simplement dans le secret, si vous voulez, de ces politiques et une espèce de confiance aveugle donnée aux gouvernants pour agir de façon éthique, limitée, etc. Nous avons besoin d'un véritable contrôle et d'un débat public sur ces questions.
Philippe Hayet, très rapidement.
Une toute petite correction, parce que c'était évoqué à l'instant et une première fois, sur le contrôle du juge. Il ne faut pas laisser dire qu'il n'y a pas de contrôle du juge. Tout se passe aussi dans une dimension sociologique. Il y a des sociologies du renseignement, les juges sont une sociologie. Ce que la loi introduit, peut-être que le syndicat de la magistrature n'en est pas ravi, c'est un contrôle juridictionnel qui n'existait pas auparavant, donc il y a un progrès, mais qui est confié au Conseil d'État, donc au juge administratif. Et donc nous avons en France deux ordres juridiques, ça n'est pas l'ordre judiciaire, c'est l'ordre administratif qui s'est vu confier cette mission, et le Conseil constitutionnel a validé cette formule.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités depuis les studios de nos confrères de Radio France, à Aix-en-Provence, Michel Tereschenko, universitaire et philosophe et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier « L'ère des ténèbres » paru aux éditions du Bord de l'Eau. Philippe Hayet, cofondateur du séminaire Métis de Sciences Po sur les politiques de renseignement et co-auteur avec Jean-Claude Cousseron de « Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie » paru chez Odile Jacob. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.